et bienvenue. Vous écoutez le 12e épisode de Litteramour en compagnie de Clarisse Cosset et de
Sigrid Brinkmann. La maison d'édition Sécession a reçu le grand prix des éditeurs le 7 novembre 2021 lors d'une cérémonie qui a eu lieu au Deutsches Theater de Berlin. Et nous sommes ravis que Christian Ruzicka et Joachim von Zeppelin, les patrons des éditions Sécession, aient reçu cette récompense. Le roman Pense aux pierres sous tes pas de l'écrivain belge Antoine Wauters fait partie de leur programme. C'est un des finalistes de l'édition de 2022 du prix Première.
Les éditeurs de Sécession sont également tous les deux traducteurs de l'anglais et du français et traduisent aussi bien de la littérature que des ouvrages de non-fiction. En 2012, Christian Ruzicka a traduit en allemand le roman « La vie pétrifiée » de l'auteur Nils Tried, un médecin allemand qui vit depuis longtemps en France et écrit tantôt en français, tantôt en allemand. Il a écrit son dernier livre « Vers le Sud »,« Richtung Süden » en allemand, et les éditions Sécession ont publié ce roman de 80 pages, dont la densité nous a fortement impressionnés. Lorsque Nils Tried est venu pour des lectures à Berlin, en novembre, nous avons saisi l'occasion pour l'inviter et nous entretenir avec lui.
Quand il parle, on entend aisément à son accent chantant que Nils Tried vient du sud de l'Allemagne. Il a grandi à Heidelberg et a commencé ses études à Marbourg. Lorsqu'il a eu, au milieu des années 90, l'opportunité d'aller étudier en France et d'améliorer son français, il n'a pas hésité un instant. A posteriori, il considère que son départ pour la France a eu une importance existentielle pour lui. Lui, que la culture passionnait, ne se sentait pas chez lui dans le monde des scientifiques de province qui l'entouraient à Marbourg. Il nous a dit combien la multitude de musées et de galeries l'avait comblé à Paris et combien il aimait aller au cinéma à toute heure de la journée.
J'avais l'impression d'être une sorte de double mal fait, mal façonné de moi-même, alors que l'original était enfermé dans une cage. Et je voulais sortir ce véritable moi de sa cachette. Et pour ça, j'ai dû m'éloigner, vivre dans une autre ville. Et la ville, c'était Paris. Ça aurait peut-être, à la rigueur, pu être une autre, mais en même temps, la France avait une très très bonne réputation dans mon entourage. Nous avons vécu à proximité de la France aussi et on a fait des voyages en France. Et tout ce qui venait de France avait l'air meilleur. J'ai cherché un sens à ma vie. J'avais l'impression de vivre à côté de moi, de ne pas réaliser ce qui est en moi, de ne pas réaliser mon talent ou peut-être destin. Et à Paris, j'avais très clairement l'impression que cette ville était très 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 favorable à la réalisation de ce projet de devenir moi-même.
La question du sens que l'on donne à sa vie est celle qui préoccupe le protagoniste du livre de Nils Tried, « Vers le Sud ». Nous y reviendrons. Nils Tried nous a parlé longuement de son arrivée à Paris en 1996.
Quand je suis allé en France, j'étais étudiant en médecine et je voulais saisir l'occasion d'aller à l'étranger, apprendre une nouvelle langue. J'avais aussi très envie de vivre dans une grande ville. Parce que j'ai passé mon enfance, ma jeunesse, dans des petites villes en Allemagne, dans un milieu plutôt bourgeois, provincial. Et voilà, c'était pour moi une occasion de me libérer de ce milieu et de tourner une page. C'était important pour moi de me libérer et d'avoir un contexte où je pouvais réaliser mes aspirations artistiques et littéraires.
Le narrateur du roman « Vers le Sud » souffre du manque d'empathie de la société à l'égard des plus pauvres et des plus démunis. Il est marié, père de deux enfants, actuellement sans emploi. Il passe ses journées à errer dans la ville. Il détecte la détresse dans le regard des gens, mais n'arrive pas à leur parler, à leur demander « Comment allez-vous ?» ou bien « Qu'y a-t-il ? Vous avez l'air bien fatigué. »
Nils Tried a écrit un monologue intérieur. Nous sommes tout le temps à l'intérieur de la tête d'un homme dont l'agitation ne cesse d'augmenter. Pourquoi n'ose-t-il pas exprimer l'inquiétude qu'il se fait pour les autres ? Il sent bien que la timidité, voire la lâcheté et la petitesse sont les raisons pour lesquelles les gens finissent par disparaître. Le boucher a un comportement suicidaire. Cela se remarque dès qu'on le regarde dans les yeux. Ils ont l'air si tristes et si résolus en même temps. Et la baisse de qualité de ces produits, ça donne envie de vomir. Du gras découpé en petits dés sans consistance, fourré dans la paupiette dure comme le cuir, à la place de la barre de goûteuse et de la farce marinée et assaisonnée d'avant. C'est typique d'un suicidant potentiel. Tomber si bas. Et si ça se trouve, il n'en s'est peut-être même pas encore aperçu. Mais moi, oui. Et je devrais... Pardon ? Aller chez le boucher et, au lieu de lui demander un morceau de viande, lui dire « Bonjour, comment allez-vous ? Vous avez l'air si vulnérable depuis quelque temps et si étrangement résolu. Hors de question. Que va-t-il penser de moi ? Il pensera aussi sec que je lui réclame quelque chose, un rabais par exemple. Je ne m'abaisserai pas à cela. On me reprochera d'avoir dit ça. On attendra qu'il se soit suicidé et alors seulement on avouera « C'est vrai ». Honnêtement, en y réfléchissant bien, il avait l'air assez nerveux ces derniers temps et si étrangement résolu. Et parfois, diront aussi les gens, quand il croyait être seul dans sa boucherie, se figurant que personne ne le voyait, il regardait si bizarrement dans le vide, les épaules baissées, du côté des boîtes de conserve rangées sur l'étagère en face. Et les gens diront oui, ils le diront, c'est certain. Il y avait quelque chose de changé en lui à ce moment-là, comme s'il avait l'esprit ailleurs, comme s'il attendait ou planifiait une chose insaisissable pour les autres. La baisse de qualité de ses produits, il aurait fallu l'interpréter, la reconnaître comme un indice, un signal, et réagir. C'est le genre de phrase qu'on dira après qu'il se sera suicidé.
Le narrateur de Vers le Sud a du mal à parler franchement et il souffre du fait que les soucis des autres sont trop souvent balayés par ses propres problèmes. Il a l'impression que tout est faux, étranger, éloigné, que la société devient brutale. Sa plus grande crainte est qu'une guerre éclate. La violence se répand devant nos yeux et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Tous les matins, le narrateur emmène son fils à l'école et l'accompagne jusqu'à son pupitre.
Anton arrive avec son papa. Semble s'être levé du pied gauche. Il est grognon, pleurniche, ne participe pas vraiment. Se prend soudain une claque en plein visage. Le bruit résonne dans la salle. Silence. Tout le monde est choqué. Sur le visage d'Anton, l'expression d'une peur impuissante, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. Il aimerait pleurer, mais il n'y arrive pas. C'est comme s'il luttait contre la peur, contre le choc, contre la stupeur. Bon sang, Anton. Lâche-toi, que ça sorte. Brusquement, ils font en larmes. Le papa d'Anton, pendant qu'Anton continue à chercher les siennes. Il supplie Anton de lui pardonner. Il sanglote comme un fou, sa grippe des deux mains au pantalon du petit. Le médecin scolaire vient. Je m'en vais. On ne peut pas toujours tout garder pour soi. Il faut que ça sorte. Ce qu'on garde pour soi. Une faiblesse soudaine dans les jambes, un goût pâteux dans la bouche, la chute. Ce n'est pas une vraie maladie comme celle qu'on sent venir. C'est lié à Anton et à tout le reste. Avec tout ce qu'on garde pour soi, bien qu'on ne devrait pas le faire. Mais dont on ne sait que faire. Bon sang, ce bruit, cette claque, et l'image de ce gamin qui ne peut pas crier, debout au milieu de sa classe, la bouche grande ouverte et les yeux figés de stupeur, qui ne peut pas crier malgré son envie de hurler, mais ça n'arrive pas à sortir. Direction le toubib, j'ai vidé mon sac, mon cœur, décrit les soucis, les signes qui montrent que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde, que ça démarrera bientôt. J'ai dit qu'il y aura une guerre, sauf si nous réussissons à réinventer le monde en le fondant sur les relations interhumaines et sur l'amour d'autrui. C'est à se demander s'il m'écoute. Quelle tronche il a ? Peau pâle, paupières rougies, nez pointu et cette moue suffisante quand il parle. Ce clignotement fou dans son regard. Je continue quand même à lui raconter ce qui se passe. Je lui explique que les enfants de la classe dans laquelle j'accompagne mon fils tous les matins sont tous égaux, tous faits pareils par la nature, mais je sais que parmi eux, leurs parents, je les... Est-ce que vous m'écoutez ? Oui ? Vraiment ? On ne le dirait pas. Vous n'avez pas l'air de m'écouter. Vous avez plutôt l'air de... penser tout à fait autre chose pendant que vous dites une chose précise. « Non, me répond-il. Il m'écoute et m'explique que le problème se situe sans doute ailleurs. Que le problème, ce n'est pas le monde, mais ma perception du monde.
Ce qui distingue le personnage principal est qu'il repère des dysfonctionnements dans la société, mais il les trouve en observant le point de départ et une observation de son monde concret dans lequel il vit. Le point de départ, pour moi, c'est pareil. Alors, donc, c'est des observations dans ma vie de tous les jours, comme par exemple des inégalités visibles entre des camarades de classe de mes enfants.
Le narrateur du livre Daniel Strede entre en possession d'une arme et soudain, cela lui procure une sorte d'apaisement.
Dans une version antérieure du roman, le narrateur, ce père de famille sensible et désespéré, commettait un massacre. Neil Strede a abandonné cette idée. Son protagoniste devient certes de plus en plus fou, mais il est aussi de plus en plus déterminé. Il fait cette proposition radicale qui consiste en ce que chacun dans la société reçoive un héritage de base, une somme d'argent qui lui permettrait d'envisager l'avenir avec sérénité.
Ça, c'est le point de départ qui amène le protagoniste dans Richtung Sud de revendiquer un héritage pour tous, parce qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait des inégalités matérielles, sociales, telles qu'elles sont déjà visibles à l'âge des enfants qu'il observe et qui sont déjà déterminées au moment de la naissance des enfants. Et il se révolte contre ça, mais le point de départ pour cette revendication d'un héritage universel, c'est une observation de la vie de tous les jours.
€100 000 pour chacun, d'un coup, cash, par amour, qui viennent droit du cœur, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs, même pour les plus démunis, simplement parce qu'on existe, parce qu'on est un être humain. Le projet pourrait s'appeler « héritage collectif ». Tout va dans une caisse, on donnerait, d'une génération à l'autre, la richesse du pays. Le livre « Vers le Sud » nous fait ressentir comment va une personne qui arrive de moins en moins à se protéger de la souffrance qui l'entoure et de la précarité qui la ronge. Il est grand temps de partager, tout le monde le sait. Le protagoniste tragique de Neil Strede exige que cela ait enfin lieu.
Quand on accepte qu'il faille en finir avec les privilèges transmis par la naissance, on adopte un nouveau langage. C'est là une vision que développe Neil Strede dans son livre. Un langage qui vient directement, sans détour, du plus profond de l'être humain. Même si cela semble être une idée assez peu réaliste, le livre se termine de manière brutale par un départ. Un départ vers l'inconnu, vers le sud, qui sait? Là où des êtres venus d'autres continents viennent échouer, souvent plus morts que vivants. Et s'ils arrivent en vie, ils n'ont qu'une vague idée de l'Odyssée qui les attend en Europe. Le livre « Vers le Sud » est un texte fort et troublant qui met en route une réflexion sur des sujets qui nous concernent tous aujourd'hui.
Après sa visite à Berlin, Neil Strede est retourné à Strasbourg où il travaille comme médecin à l'établissement français du sang. Paris lui manque. Vivre en province, même dans une grande ville comme Strasbourg, n'a pas été facile pour lui. Il a d'abord eu l'impression de retourner en Allemagne. Sa compagne, qui a grandi à Paris, avait, elle, l'impression de se rendre dans un nouveau pays. Leurs deux enfants profitent de la proximité de l'Allemagne. Ils parlent les deux langues. Et nous pouvons lire les livres de Neil Strede en français ou en allemand, selon la langue qu'il a choisie pour écrire.
Je suis très heureux d'avoir réalisé ça. Ce rêve, ce projet d'écrire des romans. Je me souviens du moment de la parution de mon premier roman. C'était un des plus beaux moments de ma vie parce qu'il a été accueilli par certains médias avec un certain enthousiasme. C'est aussi pour moi ce bonheur de communiquer à travers les livres avec les gens et de pouvoir dire et exprimer ce qui m'est important, oui, et d'avoir une activité artistique, d'être dans la création. La forme dans mes textes m'est très importante. C'est un immense plaisir, une grande joie pour moi d'écrire des pages où à la fin j'ai l'impression que la page est bien faite. C'est une sensation de bonheur presque indescriptible. C'est merveilleux.
Nous avons jusqu'à présent toujours présenté des livres dans notre rubrique Coup de cœur. Mais il y a aussi des livres audio qui nous plaisent. En l'occurrence, celui que David Tambitsch a consacré à la sculptrice allemande Käthe Kollwitz, à qui on doit la fameuse Pietà, située dans le monument aux victimes de la guerre sur la grande avenue Unter den Linden à Berlin.
Si vous êtes germanophone, nous vous recommandons vivement d'écouter le livre audio Kraft ist das, was ich brauche. J'ai besoin de force. Käthe Kollwitz et sa famille. En 1h20, vous ferez la connaissance de cette artiste expressionniste engagée et puissante dont les œuvres sont très connues en Allemagne et dans le monde. Son affiche Nie wieder Krieg, plus jamais la guerre, qui date de 1924, a été reprise par les mouvements pacifistes des années 70 et 80 et a décoré nombre de chambres de jeunes dans le monde entier. Le livre audio est disponible sur le site du musée Käthe Kollwitz de Berlin.
Dans notre prochain épisode, notre invité sera Jad Hilal, dont le premier livre traduit en allemand a été publié cet automne aux éditions Lenos en Suisse. Jad Hilal vit à Paris. Nous parlerons avec lui de son roman « Des ailes au loin ».
D'ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une belle nouvelle année. C'était Litteramour en compagnie de Clarisse Cosset et de
Sigrid Brinkmann.